Bonjour à chacune, à chacun. Fais vivre tes dons. On est au 2 sur 8 ce matin. Je ne sais pas si vous voyez. On est dans cette série de faire vivre nos dons parce qu'on a reçu ce nouveau bâtiment, on a reçu ces magnifiques locaux ici en plein centre-ville. Et puis, quelque chose qui revient souvent, c'est qu'on se dit, pour véritablement vivre notre ministère, on a besoin de nous, c'est-à-dire chacune, chacun qui composons cette communauté, pour faire vivre tout ce qu'on a ici dans ce bâtiment. Et puis, quand j'ai réfléchi à cette thématique pour vous la porter, pour vous la partager, je me suis dit, par acquis de conscience, que j'allais quand même regarder dans la parole, dans la Bible, savoir ce que la Bible disait et parlait au niveau des dons qui sont reçus. Et là, je dois bien vous avouer que je pars d'un petit malaise. Parce que pour moi, c'était clair que dans la Bible, il y aurait quantité de versets sur le don du réglage de micro. C'est un don, hein, quasiment, parce que vous remarquez qu'on n'a quand même pas une facilité extraordinaire encore à les appréhender. Mais qu'il y aurait le don de, je sais pas, du piano, le don de la louange, le don de toutes ces choses-là qui nous paraissent importantes pour la vie de l'Église. Et puis, en creusant dans la parole, je découvre que cette notion de don est bien présente, mais pas sous cette forme de toutes les compétences qui sont attendues. Et puis là, on est de nouveau un peu scotché face à ces interpellations de la Bible, puis on se dit, mais tout ce que nous, on s'était fait, en tout cas ce que moi, je m'étais fait comme idée de ces dons compétences, finalement, eh bien, on n'en trouve pas vraiment beaucoup de traces dans la Bible. Et puis là, un petit coup d'humilité qui fait du bien, de constater que souvent on essaye de tirer la couverture de la parole sur ce que nous pensons et sur ce qui pourrait nous arranger, mais qu'en fait elle a quelque chose, la Bible, de plus important, peut-être de plus profond à nous dire. Elle est bien plus percutante que nos meilleures idées. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Parce que pour la Bible, pour la parole de Dieu, le don par excellence, il porte un nom. Je ne sais pas si vous le savez. L'amour, ça va avec, mais c'est peut-être encore un qui englobe d'une certaine manière plus, puis je l'ai mis dans le titre, donc ça fait un petit indice. Que... La grâce, ouais. Exactement. Pour la Bible, le don par excellence, c'est la grâce. La grâce du salut, de cette libération qui nous est donnée en Dieu, libération de toutes sortes de choses. Et ce matin, dans un premier temps, je nous invite à relire et à méditer, à contempler finalement ce don de la grâce qui nous est fait. Contempler l'action de Dieu à notre égard, car tout part de lui. Tout part de lui. On peut retourner l'équation dans tous les sens. Il y a une certitude, tout part de Dieu et de sa grâce. Lorsqu'on cherche à faire vivre nos dons, la première étape, et c'est ce que nous allons expérimenter ce matin, c'est de se dire « tout part de Dieu ». En tant que chrétien, il est non seulement bon de passer ces temps-là, de contempler l'action de Dieu, mais c'est aussi nécessaire. Parce que si on essaye de mettre les choses dans un ordre différent, on va à coup sûr se planter. Si on part de Dieu pour faire vivre nos dons, tout va changer, notre regard va changer. Cette contemplation... Ce matin, on va la faire à travers différents moyens. On va la faire à travers la parole dans quelques instants. On va la faire à travers la louange. Et puis, on peut le faire à travers la prière, à travers quantité d'autres moments. Et c'est une grâce de pouvoir le faire tous ensemble. Et ce que vous allez voir avec le texte que je vous propose tout début, c'est de voir que cette contemplation, elle prend souvent les termes et la forme d'une poésie, d'une louange que l'on peut faire monter vers Dieu. Et en l'occurrence, cette poésie, elle a été composée il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années, par un prophète, le prophète Ésaïe. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin. Ésaïe 61, versets 10 à 11. Vous n'allez pas retrouver exactement les mêmes mots que ce qu'il y a là, parce que, pour une fois, je me suis tenté avec la complicité d'Anthony Perrault, notre spécialiste en hébreu, à retraduire un texte de l'hébreu pour essayer de le donner en français. Verset 10, « Je me réjouis, oui, je me réjouis en Dieu. Mon âme exulte en Dieu. Pourquoi ? Car il m'habille du vêtement du salut. Du manteau de la justice, il me couvre. Comme le marié qui, tel un prêtre, est orné d'un turban. Comme la mariée qui se pare de ses bijoux. Car comme la terre fait sortir son germe, et comme le jardin fait croître ses semences, ainsi le Seigneur Dieu fera croître la justice et la louange. Je relis encore une fois. Je me réjouis, oui, je me réjouis en Dieu. Mon âme exulte en Dieu. Il m'habille du vêtement du salut, du manteau de la justice, il me couvre. Comme le marié qui tel en prêtre est orné d'un turban, comme la mariée qui se pare de ses bijoux. Car comme la terre fait sortir son germe et comme les jardins fait croître ses semences, ainsi le Seigneur Dieu fera croître la justice et la louange. Amen. On sent bien dans ce texte, dans cette poésie qui monte vers Dieu, où le prophète, nous, êtres humains, on essaye de mettre des mots sur une réalité qui nous dépasse. On sent bien cet état de joie profonde, de se savoir au bénéfice du salut de Dieu et de tout ce que Dieu fait dans nos vies. Mon âme exulte en Dieu, oui, je me réjouis en Dieu, car je vois et je constate tout ce qu'il fait dans ma vie de tous les jours. Et on trouve ici un des premiers rôles de la Bible, de l'Écriture sainte, que voilà, je nous encourage à méditer quotidiennement. On trouve ici l'un des rôles premiers, c'est que ce n'est pas d'abord une application concrète ou un principe moral, mais c'est d'abord, l'Écriture sainte, un hymne, une louange qui monte vers Dieu et que nous pouvons faire nôtre. C'est une louange qui glorifie Dieu et qui dit qui il est en premier lieu. Dieu est un Dieu qui donne. Et c'est uniquement pour cela que nous sommes aussi des êtres doués. Dieu est un Dieu qui donne. Si on vous demande qui est Dieu, c'est peut-être une bonne définition de dire « Dieu, mon Dieu, est un Dieu qui donne avec générosité, avec grâce. » Et ça suscite en nous, en tant que croyants, un état d'adoration, de louange qui monte vers Dieu. Dans ce texte, il y a aussi la magnifique description des habits de fête qui sont pour le marié, pour la mariée. Cette réalité de la grâce dans nos vies, ce n'est pas une réalité plombante, c'est une réalité de fête, c'est une réalité de beauté. Comme Dieu nous habille de ce manteau de justice, il nous habille de ce manteau de justice pour que nous soyons beaux et belles devant lui et devant les hommes. C'est extraordinaire de constater ça, de se dire, on n'est pas là pour avoir les épaules un peu rentrées dedans, la mine assombrie, mais on est là pour être belle et beau devant Dieu, car il nous orne de ses bijoux, de son manteau, de toutes les grâces qu'il nous fait jour après jour. C'est ce que nous dit ce texte finalement. Et ce texte nous pousse à être dans cet état de contemplation et en pouvant, dans cet état de contemplation, recevoir toutes ces belles choses, toutes ces belles paroles, ces belles actions que Dieu fait naître en nous. Nous sommes dans un état d'être libre et d'être humain juste. Et là, on voit bien le lien avec la prière, de pouvoir se réjouir en Dieu, que notre âme puisse exulter en Dieu, ce lien avec la prière qu'on a pu voir la semaine passée. Et le verset 11 nous parle de ces graines. Comme dans un jardin, la terre fait croître ses semences, comme la terre, elle fait sortir son germe. La grâce de Dieu produit en nous ses fruits, et ces fruits, ils ne restent pas à l'état de base, à l'état de graine. C'est une perspective, la grâce, de croissance. Ce n'est pas une perspective de stabilité, c'est une perspective de croissance. Il y a une dynamique, peut-être lente, peut-être rapide, on ne sait pas à quel point ça pousse, à quelle rapidité ça pousse, toujours les graines, mais graines de foi qui grandissent et qui croissent dans cette terre voulue par Dieu. Et je pense que vous le savez, mais aujourd'hui, on est dans ce culte de retour de Coast Camp qui a vu des dizaines de jeunes être réunis pour un camp avec plein d'autres camps ailleurs en Suisse romande. Et puis je trouve que c'est assez beau de pouvoir lier ce verset 11, ces graines qui germent, qui peut-être germent plus vite que d'autres, mais qui germent comme nous le dit la parole. Ces graines qui germent de ces personnes qui découvrent la foi, qui la font grandir, qui la font exploser, comme vous allez le voir après avec la louange, qui vont nous offrir, nous guider dans cette louange-là, c'est aussi une manière de voir ces graines qui sont là et qui poussent. Et ce qui est intéressant avec la parole, c'est que jamais elle nous laisse dans un simple état de contemplation. C'est peut-être un peu le risque parce qu'on est bien hein, dans un état de contemplation, sans la grâce de Dieu, on peut être bien. Je trouve que l'image qu'on a choisie pour illustrer ce faire vivre tes dons, elle va un peu dans cette direction de contemplation. On contemple ce que Dieu fait pour nous, on contemple sa création, on contemple sa force, sa puissance. Et jamais dans la parole, le couple que je vous propose ce matin, il est séparé. Jamais on ne parle que d'un aspect, soit la contemplation, ou que d'un autre aspect, l'action. Nous, on est assez prompt à les séparer parce que dans notre être intérieur, on a facilement une petite tendance à apprécier l'un plus que l'autre ou à avoir une sensibilité plus forte pour l'un et pour l'autre. Dans la parole, dans le message biblique, ils essayent toujours, les auteurs bibliques inspirés par Dieu, de maintenir ces deux aspects ensemble. Et c'est l'invitation que je vous fais ce matin pour vivre sous la grâce, de se dire, essayons de vivre dans nos vies ces deux aspects en continu. Contemplation, ce qu'on fait ce matin, où on contemple un texte de la parole, on le fait monter en nous, pour nous pousser ensuite à l'action. Et la suite va nous l'illustrer de manière assez exceptionnelle, puisque dans les quatre premiers versets de ce même chapitre, 61 du livre d'Ésaïe, il y a une invitation à l'action qui est absolument exceptionnelle. Je vous invite à lire aussi ces versets-là. « Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres. Penser aux guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance. Consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil. Mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre. Une huile de gaieté au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille. Afin qu'on les appelle, ça c'est un peu une expression spéciale, térébinthe de la justice. Plantation du Seigneur pour montrer sa splendeur. Ils rebâtiront les ruines d'autrefois. Ils relèveront les lieux dévastés du passé. Ils restaureront des villes désertes, dévastées de génération en génération. Voilà ce que la grâce produit comme type d'action. Voilà ce que le souffle du Seigneur, ce souffle de grâce, peut produire. Alors, je ne vais pas m'attarder ce matin sur ces types d'actions. Je vous les laisse. Je vous laisse ce texte d'Ésaïe 61 pour que vous puissiez peut-être vous approprier une ou deux ou trois pistes d'action pour vous personnellement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ce qui m'intéresse, c'est bien de voir que cette conclusion où on trouve notre bonheur en Dieu, où on se met sous sa grâce, c'est ce même souffle qui nous permet d'être actifs. Vous voyez le lien là, qui est évident, entre cette grâce qui est là et qui nous permet effectivement d'être en marche à la suite de Dieu, de faire vivre nos dons, que ce soit des dons d'envoyer la bonne nouvelle, d'envoyer porter une bonne nouvelle aux pauvres, de penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la libération. Vous avez toute une série d'actions possibles que je ne vais pas détailler ce matin, mais qui sont là rendues possibles par l'action de Dieu dans nos vies. En oubliant cet aspect de contemplation, le lien avec l'action, il est quelque part brisé. En maintenant les deux ensemble, on peut véritablement faire vivre nos dons au service de Dieu. Et je crois que c'est notre objectif à toutes et à tous. Et un autre texte que je vous laisse aussi ce matin dans cette perspective d'action, un autre texte magnifique que l'on trouve là dans le Nouveau Testament. On fait un saut dans le temps assez exceptionnel. On passe de moins 700 à 0 ou 100 après Jésus-Christ. Et on voit la même attitude que nous, on cherche à avoir ce matin, que nous cherchons à avoir ici au centre de la ville de Nyon. C'est dans 1 Pierre 4, les versets 7 à 11. 1 Pierre 4, versets 7 à 11. La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Incroyable, hein, ces connivences. On retrouve exactement les mêmes directions. Pierre commence une liste d'exhortations très pratiques et à nouveau il commence, commencez par la prière. Soyez pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans maugréer. Je crois que Pierre, il est assez perspicace. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons attendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Que dire de plus, hein, par rapport à un texte comme ça? Je retiendrai simplement ce verset-là qui pourra, je pense, nous servir de guide pour la suite de notre méditation sur ce thème de faire vivre nos dons. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons attendants de la grâce si diverse de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Si on veut faire vivre nos dons, ce ne peut être que dans cette direction. D'être conscient que c'est un don de la grâce et d'accepter joyeusement notre responsabilité d'être des attendants de la grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la confiance que Dieu nous fait de nous faire attendants de sa grâce. Cette grâce qui nous dépasse, qu'on se demande comment c'est possible qu'un Dieu si grand pense à nous de cette manière-là, qu'il nous offre tout ce qu'il nous offre, et il nous confie ce rôle d'être des attendants, c'est-à-dire de s'occuper finalement de cette grâce, d'être ses témoins de cette grâce là où nous sommes. Et pour moi, je vous laisse encore 4 petites pensées sur la grâce. Je les ai mis sous une forme d'antidote parce qu'on a toujours des éléments en nous, comme un peu des venins, des poisons qui nous empêchent de vivre pleinement la grâce. Et j'en ai simplement listé 4 que je vous laisse encore ce matin. Pour moi, la grâce, c'est d'abord une antidote à la perfection. Car la perfection, tout simplement, elle est en Dieu. Et nous, on ne peut que la recevoir. Nul besoin de la rechercher à tout prix, mais besoin de la recevoir et d'y goûter pleinement pour agir. On n'est pas dans le même principe que d'une performance où on cherche à arriver à gagner centième par centième sur notre perfection morale ou je ne sais pas quoi. On est là d'abord pour recevoir et ensuite, le plus naturellement possible, redonner l'action première de Dieu en notre faveur. Contemplation, action. Une conséquence logique de cet état de fait, de non-recherche de la perfection, c'est que c'est une antidote, paradoxalement, à l'activisme. Si on part du don, on va consacrer du temps avec celui qui est à l'origine de ce don, de cette grâce. Donc on va prendre ce temps de dévotion, de prière, de louange, pour ensuite vivre le plus naturellement notre rôle de témoin. Donc tout ne va pas se résumer dans nos actions. Tout ne va pas se résumer dans ce que l'on va faire de nos dons, mais ça va conserver cet équilibre entre cette présence, cette action de Dieu dans nos vies et ce qui va en ressortir le plus naturellement possible. On va laisser véritablement la source de tous nos dons, Dieu, être au centre de notre vie et agir à travers nous sans forcément que nous nous en rendions compte. Ainsi, ce sera le plus naturel, le plus fluide possible. Et je crois que c'est ça la grâce, c'est quelque chose de fluide comme le souffle de Dieu qui passe à travers nous sans que nous ayons forcément toujours une quelconque prise là-dessus. Troisième conséquence, de nouveau assez logique, c'est une antidote à l'orgueil spirituel, parce qu'on est toujours assez prompt à se comparer les uns les autres. On se dit, oh, mais celui-là, alors moi, j'arriverai jamais à son niveau. Celle-là, c'est vraiment terrible. Je ne sais pas comment j'arriverai à avoir une vie de consécration comme ça. Je crois que si on est vraiment placé sous le don de la grâce, normalement, mais bon, on n'est pas dans le meilleur des mondes, mais normalement, ce genre de questions, ce genre de comparaison, ça ne devrait pas exister. Puisque l'on sait que tout est en Dieu et que Dieu déverse sa grâce de manière diverse, on va le voir, mais sur chacune et chacun d'entre nous. Donc, pas vraiment besoin de se comparer ou de se dire, moi je fais ci, je fais ça. Puis quand on part dans une thématique comme la nôtre, de faire vivre nos dons, il me paraît hyper important de vous dire, en tant que pasteur, responsable de cette communauté, de dire, mais si on part dans cette perspective-là, puis qu'on a en arrière-plan ou en arrière-pensée une quelconque idée de comparaison, je pense qu'on est déjà, dès le début, sur une mauvaise piste. Par contre, de se dire, on se place tous ensemble, en humilité, devant Dieu, et on le laisse agir à travers nos vies, en s'encourageant les uns les autres, ce sera le thème de notre prochaine série de prochaine prédication dans cette série, ça change complètement la perspective. Et oh, je peux le dire avec autant d'assurance, parce que je sais que cette grâce est offerte à toutes et tous qui placent leur confiance en Dieu. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une idée personnelle, c'est ce que la parole nous dit, que cette grâce est offerte à tous, sans distinction. Et c'est ce que dit bien ce texte d'un Pierre, et je vais terminer par ça, que nous sommes intendants de la grâce si diverse de Dieu. De nouveau, une antidote à la comparaison, puisque cette grâce, elle s'exprime de manière tellement différente selon les personnes, selon les dons qui sont justement les nôtres. Tout découle d'un seul don singulier pour avoir une multitude de dons au cœur de l'Église. Et je trouve ça assez beau, c'est souvent quelque chose que l'on dit par rapport à notre communauté, qu'on essaye d'être une communauté qui accepte la diversité, qui vit ensemble cette diversité. Je trouve que ce verset, de nouveau, il met bien en perspective cette réalité-là, qu'il y a un seul don et qui se vit de manière diverse au sein de notre corps. Antidote, finalement, à l'uniformité. Le but, ce n'est pas que tout le monde ait le même don, ce n'est pas que tout le monde aille dans la même direction, mais qu'on puisse aller tous ensemble avec qui nous sommes. C'est pas mal, non ? Comme programme, qu'est-ce que vous en dites ? Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce, vous serez ainsi de bons attendants de la grâce si diverse de Dieu. Et je termine cette prédication avant que nous ayons l'occasion de contempler, de louer, d'écouter aussi ce que Dieu a fait dans la vie de plusieurs personnes au milieu de nous. Une petite anecdote de cette semaine avec mes enfants. Ils ont le malheur d'avoir un papa pasteur, donc ils pensent à sa prédication un peu toute la semaine, comme ça. Et puis, après le repas de midi, ils aiment beaucoup les desserts. Donc là, ils avaient bien terminé leur assiette. J'ai dit qu'ils avaient droit à un dessert. C'est pas vrai, ils ont toujours droit. Et puis, on arrive à ce moment du dessert qu'ils attendent avec impatience. Et puis, ils savaient que ce serait de la magnifique crème caramel de la Migros. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une grande gastronomie hein, quand même. Ce n'est pas du tout industriel. Mais toujours est-il qu'ils se réjouissent beaucoup d'avoir cette crème caramel de la Migros. Et puis, comme ils aiment beaucoup les desserts, ben, je limite quand même un peu le nombre de cuillères. Et puis, à un moment donné, je dis, bon voilà, ce sera les deux dernières cuillères. Alors, ils sont là, tout contents, machin. Je leur donne deux dernières cuillères. Et puis, ensuite, dans un élan de toute puissance, puis là, c'est la première observation que j'ai faite, je le dis, il y aura encore une cuillère de la grâce, parce que j'ai quand même un espèce de rôle pédagogique. Je leur dis, il y aura encore la cuillère de la grâce. Alors, première observation, c'est que je me dis, et ça, je n'y avais pas pensé, c'est hyper important que finalement, celui qui donne la grâce reste Dieu. Parce que facilement, on se met dans un rôle de toute puissance, là, c'est ce que j'ai un peu expérimenté avec ma petite cuillère. Ce rôle de la grâce, vous avez droit à une cuillère supplémentaire. Ça m'a un peu fait plaisir, je dois bien avouer. Mais je me suis dit, c'est pas là. Il y a une vérité assez essentielle de se dire que la grâce est en Dieu, ça change de nouveau complètement la perspective. Mais dans mon effort pédagogique, j'ai continué. Et puis j'ai trouvé, c'est pour ça que je vous le raconte, leur réaction assez délicieuse, parce qu'au moment où j'ai prononcé le fait qu'il y avait cette cuillère de la grâce encore, supplémentaire, que, je ne sais plus qui m'a dit, l'un des deux, soit Thibault, soit Manon, m'a dit, « Alors, papa, tu sais, mais je me réjouis de cette cuillère. » C'est quelque chose qui va vraiment me toucher au plus profond. Puis l'autre, je ne sais plus que c'était Thibault ou Manon, de nouveau, une fois qu'il l'avait dans la bouche, là, c'est de loin la meilleure. Alors je me dis, si avec une simple caramel de la Migros, on arrive à avoir ce type de réaction, à combien plus forte raison avec la grâce de Dieu. Je termine sur une petite nouveauté toute pratique. En début d'année, on a décidé avec les pasteurs qu'on allait vous proposer quelque chose, notamment aux membres des cellules, des connect groups, mais aussi à toute personne intéressée. J'ai préparé un petit canevas de résumés et de questions par rapport à ces textes. Nous avons médité ce matin. Et puis, je vais les transmettre à David et Aline Lampert. Si vous pouvez juste vous lever comme ça, on vous réidentifie comme étant les responsables des cellules Connect Group au sein de la FRAT. Alors, soit vous vous adressez à eux pour faire partie de cette liste d'envoi, soit vous y êtes déjà parce que vous êtes reconnus comme membres ou bien responsables de cellules. Et puis, on se propose chaque semaine de vous laisser à disposition ces canevas, ces questions, pour que si vous le désirez, en groupe, en cellule, qu'ils soient officiels ou pas de la FRAT, vous puissiez reprendre ce que nous avons vécu le dimanche matin, creuser peut-être un peu plus, poser vos questions, partager là-dessus. C'est évidemment, je sais bien dans quel endroit je suis, une proposition, donc vous n'êtes pas obligé de le suivre, évidemment. Mais celles et ceux qui auront envie de le faire peuvent le faire par ce moyen-là. C'est une simple page A4, et puis voilà, ça nous permet de reméditer ce qu'on a peut-être vu le dimanche. Merci de votre attention et je laisse la parole à la louange pour exprimer et vivre cette grâce qui nous est faite et la redonner à Dieu. Amen.